Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. À tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Thomas Chagnot. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Après avoir coécrit un livre avec les parents d'Alexia Daval, tué par son mari le 28 octobre 2017, Vous étiez venu d'ailleurs sur C'est dans l'air l'invité. Vous avez sorti une série documentaire Alexia, autopsie d'un féminicide. Vous êtes le réalisateur, vous êtes le coproducteur. C'était découpé en 4 parties dans lesquelles vous donnez largement la parole à la famille d'Alexia, la parole aux victimes. Lundi dernier, lundi, il y a quelques jours, l'avocat de Jonathan Daval, Randall Schwendorfer, vient de déposer une plainte pour diffamation contre la famille d'Alexia. C'est lui qui dépose une plainte pour des propos tenus dans votre série, au moment où la mère d'Alexia et sa sœur accusent Jonathan Daval d'avoir empoisonné son épouse. Quels sont les faits, quels sont les propos qui sont reprochés, au fond, par la défense de Jonathan Daval ?
L'avocat de Jonathan Daval fait mine de penser que l'empoisonnement, du moins ce qu'on a appelé l'empoisonnement, était un fait nouveau. C'est pas un fait nouveau, c'est quelque chose qui existe, qui a fait l'objet de l'enquête, qui a fait l'objet de toutes les publications, du moins tout le monde est informé de ça depuis très longtemps. Le livre qu'on a écrit avec les parents d'Alexia ont développé cette situation, et donc tout ça est connu, c'est pas un fait nouveau. Ce qu'il reproche, c'est que les parents, ils l'affirment pas. Ils le disent, nous. Ce que j'ai voulu faire dans cette série, c'est donner la parole aux victimes pour qu'ils nous racontent ce qui s'était passé. Et donc, ils nous racontent très précisément, très factuellement, la vie, ce qu'ils ont vécu, le drame qu'ils ont vécu. Et donc, sur cet aspect de l'empoisonnement, ils racontent des faits extrêmement précis et qui, mis bout à bout, laissent à penser, oui, que Jonathan Daval a pu empoisonner Alexia, en tout cas, lui donner des médicaments contre sa volonté, des médicaments interdits, des médicaments dangereux, des médicaments dont on est sûr que ce n'est pas elle qui les a pris.
Et on va voir justement un extrait de votre série documentaire.
On voit bien le vendredi matin, le jour de sa mort, qu'elle n'est pas bien. Elle lui laisse des messages dans lesquels elle dit qu'elle n'est pas bien, qu'elle a peur, qu'elle a un sentiment de peur en elle et que voilà. Et je pense que oui, elle a dû se rendre compte à un moment donné de ce qui devait se passer, bien sûr. Ben, le vendredi matin, en tous les cas, les messages le laissent penser. Hein. Mais elle ne met pas ça sur le dos de médicaments. Elle n'a pas pris conscience qu'il la droguait.
Voilà ce qu'elle raconte. Elle raconte aussi un moment où elle l'appelle un soir, elle a quelque chose à lui dire, et elle ne reconnaît pas la voix de sa fille.
Oui, sa fille est manifestement dans un état second. Elle pense même qu'ils ont fait la fête avec Jonathan et qu'ils ont peut-être trop bu. Bref, elle se dit qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, sa fille va l'appeler le lendemain et elle va lui dire « Mais tu te souviens ce qui s'est passé ?» Elle se souvient de rien. Elle se plaint, Alexia, pendant 2 ans, de ce qu'elle appelle des blackouts, c'est-à-dire qu'elle a des trous de mémoire, des énormes trous noirs comme ça, où elle ne sait plus ce qui s'est passé. Elle perd tous ses moyens et elle en a très peur. Et Jonathan lui en parle, va lui faire voir un médecin,
un
neurologue, ouais, lui disant « Voilà, il faut que tu te fasses soigner parce qu'il y a un problème. » Bref, il y a quelques...
D'autres témoignent aussi. Sa sœur témoigne, le gendre témoigne, sa sœur qui raconte au fait qu'elle fait un lien entre la prise de médicaments et une fausse couche qu'aurait fait Alexia.
En tout cas, quand Grégory, il faut se souvenir que Jonathan Daval va accuser son beau-frère d'être le meurtrier. Et quand Grégory est accusé, lui, pour se défendre, il va prendre le dossier, et il va l'éplucher, il va tout éplucher. Et il va se rendre compte que il y a des prises de médicaments qui sont dans l'enquête, hein. Il n'y a aucune nouveauté encore là-dedans. Des médicaments qui sont du tramadol, qui sont des médicaments extrêmement dangereux. Certains sont interdits à la vente et on les retrouve dans le sang et dans les cheveux.
Dans les cheveux. Ouais.
Alexia veut avoir un enfant, elle veut absolument avoir cet enfant et on ne peut pas imaginer qu'Alexia ait pu prendre ces médicaments toute seule. Ça, c'est une certitude. Or, elle les a eus dans son sang et dans ses cheveux. Il y a bien quelqu'un qui lui a mis. Je ne suis pas en train de dire que c'est lui. Ce qui est certain, c'est que quand on met les faits bout à bout, on peut se poser la question.
Et justement, il y a cette scène aussi qu'on voit dans le documentaire. Le 8 juillet 2018, j'apprends que le week-end de la disparition d'Alexia, Jonathan a... Ça, c'est Grégory qui parle. Jonathan a montré à Jean-Pierre et Isabelle, les parents, un tiroir rempli de toutes sortes de médocs en disant « Regardez tout ce qu'elle prenait ».
C'est extraordinaire. Il faut imaginer la scène. On est le jour de la disparition. Elle a disparu depuis quelques heures. Toute la famille se retrouve dans la maison d'Alexia et de Jonathan. Et Jonathan est là, il sort de son entretien chez les gendarmes et il va montrer à toute la famille, regardez tout ce qu'elle se prenait, tous les médicaments, elle était dans cet état, etc. Donc il est déjà en train de raconter une histoire. Et autre fait qui est extrêmement flagrant, extrêmement surprenant, c'est que devant les enquêteurs, il va dire, vous rendez compte, ma femme était, le jour même, le premier jour, ma femme était violente, elle était agressive avec moi et elle m'a même dit, elle me reprochait même de peut-être l'avoir,
droguée.
Donc
c'est lui
sur procès verbal,
c'est lui qui en parle le premier.
Avant même que quelqu'un l'a.
Et vous avez raison de dire que ça fait partie de la procédure, que ça a été étudié pour le médecin légiste. La dose de médicaments retrouvée, en tout cas dans le corps de la victime, était trop faible pour être le fruit d'un empoisonnement volontaire. C'est ça qu'il y a eu à un moment donné. C'est-à-dire, il y a peut-être eu prise de médicaments, mais au fond, ça pouvait pas.
Eh bien, ça ne pouvait pas la tuer.
C'est ça.
Personne ne dit ça, d'ailleurs. Ouais. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des médicaments dans le corps d'Alexia qu'elle n'a manifestement pas pris seule. Mais vous voyez ce que je veux dire,
c'est
donc, on ne peut pas, ce qu'on sait, on ne peut pas le prouver. C'est ça, la difficulté. C'est là-dessus que joue l'avocat.
Et alors, l'avocat, justement, il dit, ce qu'on reproche à Isabelle Fouillot et Stéphane Guay, c'est de faire passer dans l'opinion publique, au travers de cette émission, de votre travail, Jonathan Daval, pour un empoisonneur et pour un assassin. Pourquoi cette plainte ? Pourquoi cette plainte et pourquoi maintenant ?
Alors, déjà, je vais vous dire une chose. C'est qu'il faut juste se resituer les choses. Mmh. Alexia, elle a été massacrée. Elle a pris 15 coups de poing. Elle a été étranglée. Elle a été traînée au sol. Elle a été brûlée. Donc, les parents d'Alexia n'ont pas besoin d'inventer de fausses choses. Mmh. Le drame, l'horreur leur suffit. Donc ils n'ont pas besoin de faire croire qu'il est plus méchant qu'il n'est déjà méchant. Mmh. Il est méchant.
Et pourquoi, alors, du coup, cette démarche de l'avocat ?
J'en sais
rien. Pour montrer qu'il y a une forme de préméditation ?
Alors, je pense que, là encore, il y a un élément de contexte qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que dans un mois et demi, début avril, il y a un procès qui s'ouvre, qui est un procès pour dénonciation calomnieuse. C'est que Grégory a accusé et a attaqué Jonathan Daval pour l'avoir accusé d'avoir tué sa belle-sœur. Bon, jusque-là, on peut le comprendre. Ouais. Et c'est une dénonciation calomnieuse parce qu'on sait que c'est lui qui a tué et on sait que c'est lui qui a accusé Grégory d'avoir tué. Donc là, il n'y a pas de discussion sur la réalité de ce dont on parle. Et étonnamment, on a aujourd'hui cette plainte pour diffamation contre les parents d'Alexia, juste Isabelle et Stéphanie, pas Grégory, pas moi, pas Canal+, personne.
Et pourquoi d'ailleurs ?
Je n'en sais rien.
Mais comment vous l'analysez-vous ?
Moi, je pense que il y a une volonté de faire une diversion. Ça sent une stratégie habituelle d'un avocat. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à défendre dans le procès qui s'annonce. Et donc, il vaut mieux faire une diversion pour dire, regardez, on est harcelés, nous aussi, par des gens qui disent n'importe quoi sur nous. Ils n'ont pas besoin, encore une fois, de dire n'importe quoi sur Jonathan Daval. Jonathan Daval a tué leur fille.
Le fait qu'il ait empoisonné Alexia auparavant ne peut rien changer au jugement ?
Non,
qu'il y ait une forme de préméditation ?
Non, parce que la peine qu'il a subi, 25 ans, qui est la peine la plus lourde pour un féminicide, n'aurait pas été vraiment différente s'il y avait eu préméditation.
Thomas Chagnot, est-ce qu'ils ont choisi leur jour pour déposer plainte hier ?
En tout cas, j'ai eu tout à l'heure Isabelle, la maman d'Alexia, qui évidemment est à nouveau bouleversée par le fait d'être à nouveau accusée. On est toujours dans cette idée d'inverser les responsabilités. Je rappelle juste que l'avocat de Jonathan Daval avait accusé Alexia d'être l'auteur de sa propre mort, en expliquant qu'elle était violente, insupportable, et que donc il y avait une explication à sa mort. Il avait expliqué aussi que Grégory était le meurtrier de sa belle-sœur et qu'il avait les preuves.
Il a toujours voulu retourner.
Il a toujours inversé la responsabilité. Et là, aujourd'hui, de la même façon, on inverse la responsabilité en faisant passer Jonathan pour la victime et les parents d'Alexia qui n'ont rien demandé à personne. Ouais. Pour des personnes qui poursuivraient Jonathan de leur haine, ce qui n'est pas le cas. Je pense que pour les personnes qui ont vu le documentaire, ce qui est assez remarquable, c'est qu'ils parlent d'eux avec encore un peu d'affection, malgré ce qui s'est passé.
Cette plainte, elle a été déposée pas si loin de l'anniversaire d'Alexia.
Oui, c'est pas si loin.
C'est le jour même
de l'anniversaire. C'est-à-dire qu'Alexia, le 18 février, avant-hier, aurait eu 36 ans. Et donc, quand j'ai eu Isabelle tout à l'heure, elle était bouleversée par être encore mêlée à ce genre d'histoire. Ouais. Mais en même temps, elle me dit, tu sais, c'était le jour de l'anniversaire d'Alexia que la plainte a été
déposée. Ça peut pas être un hasard.
En tout cas, j'y vois un peu une forme d'acharnement, j'en sais rien. Mais je veux dire, je trouve que c'est indigne, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose d'indigne à avoir accuser cette femme qui s'est fait assassiner d'avoir été violente, ce qui est faux, d'avoir accusé le beau-frère d'être le meurtrier, ce qui est faux, et aujourd'hui d'accuser la mère et la sœur de dire n'importe quoi, ce qui là encore est très contestable.
Et on va juste préciser qu'une femme est tuée tous les 3 jours en France dans cette comptabilité macabre. Il y en a une encore aujourd'hui à Montpellier. Je rappelle que cette série documentaire, on peut toujours la trouver naturellement sur Canal+. Et j'allais dire l'engouement, c'est pas le bon mot. Il y a une fascination pour ce dossier-là de la part des Français. On a commencé à parler de féminicide depuis l'affaire Alexia Daval.
Encore une fois, c'est ça. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette série documentaire. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et c'est pour ça que les parents veulent parler. C'est contre le féminicide. C'est pour lutter contre les violences masculines. Et c'est pour, honnêtement, avoir un débat un peu plus élevé que ce qu'on a en face.
Merci beaucoup, Thomas Chagnon. On va continuer à parler des femmes, de ces femmes qui se dressent en Russie contre Vladimir Poutine. Elles sont femmes de soldats ou encore la veuve d'Alexei Navalny qui a décidé de reprendre le flambeau du combat pour la liberté de son mari. À tout de suite. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.